Amas des auditeurs, bonjour. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec les pères de l'Église. Et aujourd'hui, donc, nous écoutons Saint Jean Chrysostome qui commente pour nous la seconde épître aux Corinthiens. Et c'est la 20e homélie sur le texte suivant. Dieu qui donne la semence à celui qui sème vous donnera du pain dont vous avez besoin pour vivre et multipliera ce que vous aurez semé et fera croître de plus en plus les fruits de votre justice. La sagesse de Paul mérite surtout ici d'être admirée par la raison qu'après avoir fondé ses exhortations sur les choses de l'esprit et sur les choses de la chair, il fonde pareillement ce qu'il enseigne de la rémunération sur ces deux ordres de récompense. Ses paroles, il a distribué, il a donné son bien aux pauvres, sa justice demeure éternellement, se rapporte à la récompense spirituelle. Quant à celle-ci, et multipliera ce que vous aurez semé, elles ont trait à la rémunération de la chair. Toutefois, l'apôtre ne s'arrête pas là. Il reprend de nouveau les biens spirituels. Sans cesse, il les met en opposition avec les autres, car ses paroles les fera croître de plus en plus en les fruits de votre justice, appartiennent à l'ordre spirituel. Ce qu'il en fait, c'est pour varier son discours et pour déraciner de l'esprit des fidèles les pensées lâches et molles, c'est pour dissiper par tous les moyens la crainte de la pauvreté, ce à quoi tend le présent exemple. En effet, si Dieu accorde à ceux qui ensemencent la terre, à ceux qui nourrissent le corps, l'abondance de tous les biens, à plus forte raison est-il magnifique pour ceux qui ensemencent le ciel, pour ceux qui prennent soin de l'âme, car c'est de l'âme qu'il veut surtout que l'on soit occupé. Mais il n'exprime pas cette vérité sous forme de raisonnement, comme je viens de le faire. Il l'énonce dans une prière. Et par ce moyen, il propose du même coup aux fidèles un raisonnement d'une parfaite clarté et de plus grands motifs d'espérance, qui se fonde non seulement sur les faits réels, mais sur cette prière même, que Dieu donne, qu'il multiplie, dit-il, ce que vous aurez semé, et fasse croître de plus en plus les fruits de votre justice. Ces paroles font voir ici à découvert la magnificence de Dieu. C'est bien là ce qu'indiquent ces mots « donner » et « multiplier ». En même temps, l'apôtre insinue qu'il ne faut s'inquiéter que de ce qui est nécessaire pour vivre lorsqu'il dit « le pain dont vous avez besoin pour vivre ». Car voilà ce qu'il faut surtout admirer dans Paul, ce qu'il a fait déjà voir auparavant, c'est qu'il ne nous permet pas, en ce qui concerne les nécessités de la vie, de rien chercher au-delà de ce dont nous avons strictement besoin, tandis qu'en ce qui concerne les biens spirituels, il nous exhorte à amasser d'immenses richesses. Plus haut, il disait « Afin qu'ayant ce qui suffit pour votre subsistance, vous possédiez abondamment de quoi exercer toutes sortes de bonnes œuvres. Et ici, celui qui vous donne le pain dont vous avez besoin pour vivre multipliera ce que vous aurez semé, c'est-à-dire votre semence spirituelle. » En effet, l'apôtre ne demande pas seulement que l'on fasse l'aumône, il la veut largement. Voilà pourquoi il ne se lasse pas de l'appeler du nom de semence, de même que le grain de froment jeté sur terre vous rend de riches moissons, de même l'aumône multiplie les épis de la justice et fait surgir l'abondance des plus magnifiques produits. Après avoir demandé au ciel pour eux cette fécondité, l'apôtre montre l'usage qu'il veut en faire. Il dit « Afin que vous soyez riches en tout, pour exercer avec un cœur simple tout ce qui nous donne sujet de rendre à Dieu de grandes actions de grâce, verset 11. Il ne faut pas faire de votre opulence un mauvais usage, il faut l'employer à des œuvres d'où naissent les plus grands sujets de rendre à Dieu des actions de grâce. Car Dieu nous a rendus maîtres des affaires les plus importantes, il sait réserver les moindres pour nous laisser celles du plus grand intérêt. Il a voulu être le maître de nous mesurer la nourriture du corps. Quant à celle de l'esprit, il l'a laissée à notre libre arbitre. Il dépend de notre libre arbitre de rendre notre moisson pleine et abondante. Il ne faut pour cette récolte ni le secours des pluies, ni l'harmonie des saisons. Il suffit de la volonté pour s'élever d'un bond jusqu'au ciel. Maintenant, par simplicité, l'apôtre entend l'abondance d'un cœur généreux. C'est là ce qui fait que nous donnons des sujets de rendre à Dieu des actions de grâce. En effet, cette munificence ne produit pas seulement l'aumône, mais elle est encore le sujet de nombreuses actions de grâce. Disons mieux, non seulement d'actions de grâce, mais encore de beaucoup d'autres avantages que l'apôtre fait voir dans le développement de son discours, afin que cette exposition excite l'ardeur des fidèles. Quels sont donc ces avantages ? Écoutez, car cette oblation dont nous sommes les ministres ne supplée pas seulement aux besoins des saints, mais elle est riche et abondante par le grand nombre d'actions de grâce qu'elle fait rendre à Dieu. Parce que ces saints, recevant ces preuves de votre libéralité par notre ministère, se portent à glorifier Dieu de la soumission que vous témoignez à l'évangile de Jésus-Christ et de la bonté avec laquelle vous faites part de vos biens, soit à eux, soit à tous les autres. Et de plus, elle est riche et abondante par les prières qu'ils font pour vous, dans l'affection qu'ils vous portent, à cause de l'excellente grâce que vous avez reçue de Dieu. Versets 12, 13 et 14. Or, voici le sens de ces paroles. D'abord, vous ne remplissez pas seulement les mains vides des saints, mais vous les comblez, vous dépassez la mesure du nécessaire pour eux. Ensuite, par leurs moyens, vous glorifiez Dieu. C'est en effet la gloire de Dieu qu'ils proclament par suite de votre soumission dans la foi. Après avoir parlé d'eux en termes relevés, après les avoir appelés ministres, les avoir exaltés parce qu'ils s'épuisaient pour secourir les pauvres par des aumônes dont il n'était lui-même que le porteur, il fait voir que l'auteur de toutes choses, c'est Dieu. Et se confondant avec eux, il rend à Dieu des actions de grâce par ses paroles. Dieu soit loué de son ineffable don. Verset 15. Or, par le mot don, il entend ici tant de biens si précieux, ses fruits de l'aumône recueillie, et par ceux qui la reçoivent et par ceux qui la font, ou encore ces biens mystérieux que sa présence en tout lieu communique à toute la terre avec une si grande libéralité. Cette conjecture est même la plus vraisemblable. Il a pour but, en leur rappelant ses grâces, de les rendre plus humbles, d'en faire de plus généreux dispensateurs des dons qu'ils ont reçus de Dieu. C'est là, en effet, le stimulant le plus énergique pour toute vertu. Aussi est-ce par cette pensée qu'il termine son discours sur ce point. Jusqu'ici, à mes auditeurs, nous étions dans le billet du chapitre 9 qui concernait la collecte dans la deuxième épître aux Corinthiens, collecte que Paul, l'apôtre, organisa pour les saints de l'église de Jérusalem. Nous entrons maintenant avec le chapitre 10 de cette seconde épître dans l'apologie que saint Paul est obligé de faire de son propre ministère face aux Corinthiens qui étaient divisés. 21e homélie donc de saint Jean Chrysostome sur le début du chapitre 10 de la seconde aux Corinthiens. Mais moi, Paul, moi-même qui vous parle, je vous conjure par la douceur et la modestie de Jésus-Christ, moi qui étant présent, parais bas parmi vous, au lieu qu'étant absent, j'agis envers tous avec hardiesse. Je vous prie que quand je serai présent, je ne sois point obligé d'user avec confiance de cette hardiesse qu'on m'attribue, envers quelques-uns qui s'imaginent que nous nous conduisons selon la chair. Comme il y avait certains hommes infatués d'être d'eux-mêmes, qui se préférait à l'apôtre, qui l'attaquait comme un fanfaron, comme un homme sans valeur, comme un maître dont la doctrine n'avait rien de bon, ce qui était la meilleure preuve qu'ils pussent donner de leur propre corruption. Voyez comment Paul débute dans la réprimande qu'il leur adresse. « Mais moi, Paul, moi-même, comprenez-vous tout ce qu'il y a là de gravité, d'autorité ? C'est comme s'il disait « Je vous en prie, ne me forcez pas à exercer, ne me laissez pas l'occasion d'exercer ma puissance contre ceux qui nous dénigrent. » qui nous regardent comme des hommes adonnés à la chair. Ces paroles sont plus sévères que les menaces qu'il leur adressait dans la première lettre. Ici, il montre à la fois deux choses. D'une part, sa force, d'autre part, sa douceur et sa patience, par la prière qu'il leur adresse, par sa manière de les conjurer de ne pas le contraindre à déployer sa propre puissance pour punir, pour frapper, pour châtier, pour infliger les peines les plus sévères. Moi qui étant présent parais bas parmi vous, au lieu qu'étant absent, j'agis envers vous avec hardiesse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ou c'est une ironie qui reproduit leur discours, car ces hommes disaient que, quand ils se montraient, ils n'avaient aucune valeur, qu'il était vil et méprisable, mais qu'à distance, il s'enflait, grossissait son langage, s'élevait contre eux, se permettait de les menacer. C'est ce que font entendre des paroles de la lettre qui viennent plus loin. Les lettres de Paul, selon eux, sont graves et fortes, mais lorsqu'il est présent, il paraît bas en sa personne et méprisable en son discours. Donc, ou bien ces paroles sont une ironie sévère, comme s'il disait « Moi qui suis si bas, moi qui suis si misérable lorsque je suis présent, comme disent ces hommes, et qui à distance devient très haut », ou bien l'apôtre veut dire que, quelle que soit la fierté de ses lettres, ce n'est pas l'orgueil qui l'égare, mais sa confiance en eux qui le porte à s'y abandonner. Je vous prie que, quand je serai présent, je ne sois point obligé d'user avec confiance de cette hardiesse qu'on m'attribue envers quelques-uns qui s'imaginent que nous nous conduisons selon la chair. Comprenez-vous tout ce qu'il y a d'indignation dans ces paroles, tout ce qu'elles renferment de reproches évidents ? Je vous en prie, leur dit-il, ne me forcez pas à montrer que, même quand je suis présent, ce n'est ni la force qui me manque ni la puissance. Ils disent que c'est quand je suis au loin que je parais hardi et insolent avec vous en parole. Je vous en prie, ne souffrez pas qu'ils me contraignent à me servir de la force que je me sens. C'est là ce qu'il veut dire d'user avec confiance. Et il ne dit pas de cette hardiesse que je suis prêt à exercer, mais qu'on m'attribue. En effet, je ne suis pas encore décidé, ils me fournissent une occasion, mais je ne veux pas en profiter. Ce n'était pourtant pas le soin de sa propre vengeance qui l'inspirait, mais le soin de la défense de l'Évangile. Maintenant, quels sont ceux à qui l'apôtre s'adresse ? Des hommes qui s'imaginent que nous nous conduisons selon la chair. On l'accusait donc d'hypocrisie, de méchanceté, d'orgueil. Car encore que nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 3. Ici commencent des figures propres à intimider l'esprit des contradicteurs. « Nous sommes revêtus de chair, dit-il, je n'en disconviens pas, mais nous ne vivons pas pour la chair. » Je me trompe, il ne s'exprime pas ainsi, et il tempère une parole qui ferait l'éloge de sa vie. Il parle de la prédication, il montre que ce n'est pas une œuvre de l'homme appuyée sur les secours qui viennent d'en bas. Aussi ne dit-il pas « Nous ne vivons pas selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair ». Ce qui veut dire nous avons entrepris une guerre, des combats, mais que nous ne nous soutenons pas avec des armes charnelles en nous appuyant sur quelques secours humains. Car nos armes ne sont pas charnelles. Verset 4. Quelles sont les armes charnelles ? Les richesses, la gloire, la puissance, l'éloquence, l'habileté, l'intrigue, la flatterie, la feinte, toutes les autres ressources du même genre. Nos armes à nous ne ressemblent pas à celles-là, mais quelles sont-elles ? Mais puissantes en Dieu. L'apôtre ne dit pas « Nous ne sommes pas charnels, mais nos armes ». Je l'ai déjà dit, il ne parle que de la prédication et c'est à Dieu qu'il rapporte toute puissance. Et il ne dit pas « Nos armes sont spirituelles ». Le reproche de vivre selon la chair semblait amener cette opposition d'armes spirituelles. Mais il dit « puissantes » et par là, il fait entendre que celles de ses ennemis sont sans force et sans puissance. Et remarquez la mesure et la modération des termes. Il ne dit pas « nous sommes puissants », mais « nos armes sont puissantes en Dieu ». Ce n'est pas nous qui les avons rendues telles, c'est Dieu lui-même. Oui, quoi que ce soit, nous qui les portions ces armes, c'est Dieu lui-même qui s'en sert pour combattre et pour produire ses œuvres. Suit maintenant un long éloge de ces armes, pour renverser les remparts. N'allez pas à ce mot de rempart vous représenter quelque chose de sensible. Voilà pourquoi l'apôtre dit « en détruisant les raisonnements humains ». L'image est pour exalter la puissance divine, ce qui la suit prouve qu'il s'agit d'une guerre spirituelle. Ces remparts ne sont pas élevés contre des corps, mais des âmes. Aussi sont-ils plus solides, aussi faut-il pour les renverser des armes plus puissantes. Ces remparts signifient pour l'apôtre l'orgueil de la sagesse des Grecs, leur sophisme, leur raisonnement. Dieu a fait bon marché de toutes ces armes dressées contre les fidèles. En détruisant les raisonnements humains et tout ce qui s'élève avec hauteur contre la science de Dieu. Verset 5. Il continue la métaphore pour donner plus de force à son discours. Rempart, dit-il, tour, fortification quelconque, il faut que tout cède à ses armes, et réduisant en captivité tout esprit pour le soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ. L'expression de réduire en captivité a quelque chose d'affligeant. Elle marque la perte de la liberté. Pourquoi donc l'apôtre l'emploie-t-il ? Il l'emploie en un autre sens. servitude signifie deux choses, et que l'on est déchu de la liberté, et que l'on est au pouvoir de la force, sans espérance de se relever. C'est dans ce dernier sens que l'apôtre a entendu la captivité. Lorsque l'apôtre dit « réduisant en captivité tout esprit pour le soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ », aussitôt qu'il a fait entendre ce mot de captivité, il sent que ce terme est trop dur et vite il le corrige. Il ajoute « pour le soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ ». Après la captivité, la liberté. Après la mort, la vie. Après la perdition, le salut. Car nous ne venons pas seulement pour terrasser, nous venons surtout pour transformer, pour conquérir nos adversaires à la vérité. Ayant en notre main le pouvoir de punir toute désobéissance lorsque vous aurez satisfait à tout ce que l'obéissance demande de vous. Verset 6. Ici, ce n'est pas les coupables seulement qu'il remplit de crainte, mais il intimide les autres avec eux. « C'est vous, dit-il, que nous attendons, quand nos avertissements, nos menaces, vous auront redressé, purifié, séparé de tout commerce avec les coupables. Quand les malades incurables seront dans leur isolement, alors nous sévirons, attendant pour cela que vous vous soyez franchement séparés. Vous obéissez sans doute maintenant, mais votre obéissance n'est point parfaite. Mais dira-t-on, si vous agissiez tout de suite, il y aurait une plus grande utilité. Nullement. Car si j'agissais tout de suite, je vous envelopperais dans la punition. Mais vous deviez châtier les autres et nous épargner. Mais si je vous épargnais, on pourrait m'accuser de partialité. Je ne veux rien faire quant à présent, je veux d'abord vous redresser et ensuite c'est aux autres que j'irai parler. » Est-il possible de mieux prouver la tendresse qu'il porte dans ses entrailles? Il voit ses fidèles compromis par un indigne commerce, il veut frapper les coupables, mais il s'arrête, il contient son indignation. Il donne aux siens le temps de se retirer pour n'avoir à frapper que ceux qu'il faut punir. Disons mieux, pour n'avoir même pas à les frapper eux-mêmes. Car s'il les menace, s'il dit ne vouloir recouvrer que les vrais fidèles, c'est pour que les autres, corrigés par la crainte, reviennent à récipiscence. C'est pour n'avoir à faire tomber sur personne le feu de sa colère. C'était un médecin excellent, un bon père, étendant ses soins sur tous, un protecteur, un curateur plein de zèle, attentif à tous les intérêts, écartant tous les obstacles, réprimant les hommes dangereux, se montrant partout à la fois pour veiller au salut de tous. Vingt-deuxième homélie. Est-ce que vous me considérez que le dehors? Si quelqu'un se persuade en lui-même qu'il est à Jésus-Christ, il doit aussi considérer en lui-même que comme il est à Jésus-Christ, nous sommes aussi à Jésus-Christ. Verset 7 du chapitre 10. Après s'être élevé contre ceux qui ont trompé les fidèles, il ne s'arrête pas à ses coupables seulement, mais il s'élance de ceux qui font des dupes à ceux qui se laissent duper. C'est l'habitude constante de Paul. Il ne lui suffit pas d'attaquer les trompeurs, il s'en prend à ceux qui leur donnent les moyens de les tromper. Car s'il ne les eût pas réprimandés eux aussi, il n'aurait pas facilement trouvé dans les paroles adressées aux autres leur propre correction. Il se serait même enorgueilli comme n'ayant pas donné lieu à des réprimandes. Voilà pourquoi l'apôtre s'en prend aussi à eux. Et ce n'est pas là seulement ce qu'il a d'admirable, mais c'est que des deux côtés, la réprimande est parfaitement juste. Écoutez ce qu'il dit. Ne considérez-vous que le dehors? L'accusation n'est pas indifférente, elle est très sévère. Pourquoi? C'est que, dit-il, l'espèce humaine est facilement dupe. Voici sa pensée. Vous jugez des hommes par ce qui paraît au dehors, par les choses de la chair, par les choses corporelles. Qu'est-ce à dire par le dehors? Si un homme est riche, s'il étale beaucoup de faste, s'il est escorté de flatteurs qui l'entourent en foule, s'il se vante, s'il se laisse emporter par la vaine gloire, s'il joue la vertu quand il ne possède pas la vertu, voilà ce que signifient ces paroles. Vous ne considérez que le dehors. Si quelqu'un se persuade à lui-même qu'il est à Jésus-Christ, il doit aussi considérer en lui-même que comme il est à Jésus-Christ, nous sommes aussi à Jésus-Christ. L'apôtre ne veut pas éclater tout d'abord. ce n'est que peu à peu qu'il devient plus explicite et plus impétueux. Remarquez ici l'aspérité et tout ce que les expressions laissent deviner. Ces mots considérés en lui-même veulent dire « ce n'est pas de nous », c'est-à-dire « ce n'est pas de notre réprimande », c'est des réflexions que chacun peut faire en son particulier, que chacun doit tenir la certitude que, comme il est à Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes à Jésus-Christ. L'apôtre ne dit pas qu'il appartient à Jésus-Christ autant que celui-là, mais comme il est à Jésus-Christ, je suis aussi à Jésus-Christ. C'est un motif d'union, car il n'est pas, lui, de son côté à Jésus-Christ, moi de mon côté à tout autre. Après avoir ainsi établi l'égalité, l'apôtre va plus loin. Il ajoute ce qui lui donne l'avantage sur l'autre, car quand je me glorifierai un peu davantage de la puissance que le Seigneur m'a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je n'aurai pas sujet d'en rougir. Il s'apprête à dire de lui quelque chose de grand. Voyez comme il s'y prend d'avance pour ne pas blesser. C'est que rien ne choque autant la foule que d'entendre quelqu'un faire son propre éloge. Aussi, pour prévenir le mauvais effet de ses paroles, l'apôtre dit-il « quand je me glorifierai un peu davantage ». Et il ne dit pas « si quelqu'un a la confiance qui appartient à Jésus-Christ, que celui-là réfléchisse à la distance qui le sépare de nous, car moi je tiens de lui un grand pouvoir et ceux qu'il me plaît, je les punis, je les châtie ». Non. Mais que dit-il « quand je me glorifierai un peu davantage ». Il lui est impossible de dire la grandeur de son pouvoir, toutefois il en parle modestement. Il ne dit pas « je me glorifie », mais « quand je me glorifierai », supposez que j'en eusse la volonté. Cette expression, toute mesurée qu'elle est, montre toute l'étendue de son pouvoir. « Quand donc je me glorifierai, dit-il, de la puissance que le Seigneur m'a donnée ». Ici encore, il rapporte tout à Jésus-Christ et il montre que le don n'est pas pour lui seul. « Pour votre édification et non pour votre destruction ». Vous voyez de quelle manière il s'y prend pour prévenir le mauvais effet de la louange qu'il se décerne à lui-même et pour se concilier l'auditeur. Il lui parle de l'emploi à faire du don qu'il a reçu. Pourquoi donc, dit-il, détruisant les raisonnements humains ? C'est que l'édification consiste surtout à détruire de la sorte, à faire disparaître les obstacles, à confondre la corruption, à donner de la solidité à la vérité. Pour votre édification, voilà donc pourquoi nous avons reçu nos pouvoirs, c'est pour édifier. Si on s'acharne contre nous, si l'on persiste à nous combattre, si l'on se montre incurable, nous aurons recours à une autre arme puissante. Nous détruirons le coupable en le terrassant. De là encore, ce qu'ajoute l'apôtre, je n'aurai pas sujet d'en rougir. C'est-à-dire, on verra bien que je ne suis ni un menteur, ni un fanfaron. Mais afin qu'il ne me semble pas que nous voulions vous intimider par des lettres, parce que les lettres de Paul, dit-il, sont graves et fortes, mais lorsqu'il est présent, il paraît bas en sa personne et méprisable dans son discours, que celui qui est dans ce sentiment considère que ce que nous sommes par les paroles de nos lettres à distance, nous le sommes également de près par nos actions. Ce qui revient à dire, je pourrais sans doute me glorifier, mais on pourrait m'objecter encore que je me vante dans mes lettres, tandis que de près, je suis méprisable. Donc, je ne dirai rien de grand à mon sujet. Sans doute, dans la suite, il célèbre sa vie, mais il ne dit rien de la puissance par laquelle il intimidait ses adversaires. Il ne parle que des révélations qui lui ont été faites, et plus encore de ses épreuves, car nous n'osons pas nous mettre au rang de quelques-uns qui se relèvent eux-mêmes, ni nous comparer à eux. Voilà, chers amis auditeurs, nous sommes entrés dans l'apologie de saint Paul à la fin du chapitre, la fin de l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens. Je vous donne rendez-vous pour poursuivre avec le commentaire de saint Jean Chrysostome la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt.